Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Je suis heureux d'être à nouveau en votre compagnie, fidèle auditeur de Radio de la Paix. Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité économique, s'intéresse au plan national de développement, encore une fois, et nous continuerons à analyser l'impact de ces différents plans sur le développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est avec Faustin Onozon que nous retrouverons dans la rubrique Regard sur la gestion économique, suivra Itinéraire qui nous conduira à Sério, l'une des sous-préfectures de la région du Lojibwa. Mais avant cela, démarrons avec le lexique économique et c'est maintenant.
Le lexique économique.
Les critères de convergence d'une union ou organisation.
Ce sont des termes utilisés pour définir les conditions à remplir par chaque pays membre en fonction de critères établis par une organisation économique dont ils sont membres. Par exemple, les pays membres de l'UEMOA doivent respecter certains indicateurs économiques et financiers que sont le solde budgétaire, le taux d'inflation, les arriérés de paiement, la masse salariale, le déficit extérieur, la pression fiscale, pour ne citer que ces critères.
Le solde budgétaire.
Le solde budgétaire, c'est la différence entre les recettes et les dépenses prévues dans la loi des finances. Le solde budgétaire peut être excédentaire ou déficitaire. Il y a déficit lorsque les dépenses de l'État excèdent les recettes.
Le taux d'inflation.
Le taux d'inflation, c'est l'augmentation générale et durable des prix.
Le déficit extérieur.
Le déficit extérieur, c'est lorsque la valeur des exportations est supérieure à celle des importations. Et dans ce cas, la balance commerciale est dite excédentaire. À l'inverse, il y a déficit commercial lorsque la valeur des exportations est inférieure à celle des importations.
La pression fiscale.
La pression fiscale, c'est le poids des impôts dans l'économie. L'impôt étant donc un paiement obligatoire par des individus et entreprises de taxes à l'État pour leurs différentes activités menées ou pour les biens qu'ils possèdent.
Regard sur la gestion économique nationale.
C'est encore avec plaisir que nous retrouvons Faustin Onozon, expert en intelligence économique et aussi évaluateur national en ce qui concerne des questions de blanchiment des capitaux. Il est avec nous pour parler d'économie. Monsieur Faustin Onozon, bonjour.
Bonjour Monsieur Koumé.
Alors, pour ceux qui nous suivent depuis quelques semaines, on s'intéresse au plan national de développement de la Côte d'Ivoire. Soit dit en passant, est-ce que les autres pays, notamment de la sous-région, ont aussi des plans quinquennaux? Est-ce que c'est des habitudes qui s'installent de plus en plus?
Oui, mais c'est des habitudes qui datent de plusieurs années. Et depuis que nos pays ont accédé aux indépendances, ce sont des choses qui existent. Aucun pays ne peut logiquement se développer sans aucun plan. C'est un peu comme si vous naviguez à vue. Et même au niveau des organisations internationales, c'est exactement la même chose. Chaque organisation internationale a ses indicateurs, qu'on appelle des indicateurs de convergence. Quand je prends l'UEMOA, par exemple, on nous demande de ne pas dépasser un taux d'inflation de 2%. On nous demande aussi de ne pas dépasser un taux de déficit budgétaire de 3% pour pouvoir progresser comme le veut l'Union. Donc, vous voyez, déjà au niveau de l'Union, il y a des indicateurs de convergence. Mais au niveau aussi des pays, il y a un plan. Le plan, c'est un peu comme des indicateurs de convergence pour le pays, pour que le pays puisse aller de l'avant. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, il n'y a pas un seul pays qui échappe à ce principe-là.
Comme les grandes puissances aussi font des plans.
Mais exactement, ils ont une planification, mais ils ne diront pas planification pour une question d'objectif politique.
Justement, cette information que vous donnez, est-ce que les plans diffère en fonction des orientations politiques des pays. Un pays qui, ou un régime qui met l'accent sur le capitalisme, ou un régime qui décide, lui, de mettre en avant le socialisme, et bien d'autres, est-ce que celui qui est à la tête du pays, en fonction de sa planification, on sent une touche particulière dans le plan qui est élaboré?
Oui, sinon on se retrouve dans un pays qui met l'accent sur le secteur public et d'autres pays qui mettent essentiellement l'accent sur le secteur privé. Bien entendu, il y aura une divergence de vue, une divergence même de gestion et des fonctions de ces économies-là. Bon, aujourd'hui, c'est le capitalisme dans pratiquement tous les pays.
Ouais, c'est cela.
Mais dans les pays socialistes et autres, on parlera de capitalisme d'État. Des pays comme la Chine, par exemple, on parlera de capitalisme d'État. Mais nous, en ce qui nous concerne, en qui concerne des pays comme les États-Unis, c'est un capitalisme qui est axé sur le secteur privé. Voilà, c'est le secteur privé qui conduit véritablement tout ce qui est gestion des différentes politiques économiques et financières. Le secteur privé permet à l'État d'asseoir sa politique.
Depuis la session d'Alassane Ouattara, le président de la République, les différents PND, les pourcentages, ce sont 10% espérés du secteur privé et 30% de l'État. Pour vous, c'est raisonnable de baser sa politique sur des personnes qu'on ne maîtrise pas? Le secteur privé, c'est pas le secteur public. Pourquoi une telle stratégie?
Oui, parce que en fait, l'État n'est pas un commerçant. Et l'État, par définition, ne doit pas rapporter des recettes. Les recettes sont destinées au secteur privé. Ce sont eux qui donnent ce qu'on appelle des recettes à l'État. Les droits de douane, les droits d'entrée, les déclarations d'importation, d'exportation et autres, c'est du fait de ces structures-là privées, mais ce n'est pas du fait de l'État. Et c'est ce qui permet à l'État d'asseoir son budget, de gérer au mieux son économie sur le plan national. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et même quand l'État, dans son aspect régalien, est obligé par exemple de s'occuper de tout ce qui est infrastructure sociale, sanitaire, éducative, etc., etc., mais l'État s'adresse au secteur privé. Quand on fait des routes, il n'y a pas de société d'État qui font des routes. Ce sont des secteurs purement privés qui font des routes.
Mais à l'époque, justement, par rapport à ce que vous dites, à l'époque, au début des indépendances, il y avait beaucoup de sociétés d'État. C'était un peu la politique du fouet.
Oui, ce sont des sociétés d'État qui accompagnaient les sociétés privées. Quand vous prenez, par exemple, les sociétés qui s'occupaient des routes, toute publicité mise à part, mais c'était les sociétés comme Jean Lefebvre.
Oui, c'est cela.
Mais à côté de Jean Lefebvre, il y avait une société d'État qui conduisait cette politique-là. Eux, ils étaient des techniciens, mais c'est pas eux qui conduisaient la politique. Donc, vous pouvez créer ces nombreuses sociétés d'État pour être près des réalisations qu'il veut mettre sur pied, pour être près de son développement. Et croyez-moi, il a réussi dans ce cadre bien précis. C'est vrai qu'après, il y avait beaucoup trop de dépenses, selon le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. On a dû revoir la forme de gestion de ces sociétés, mais elles n'ont pas tout disparu. On en a même créé encore d'autres.
Justement, un élément à mettre en avant dans un plan de développement, c'est la question sociale. Tous les gouvernements décident d'en faire une priorité, la question sociale qui sous-tend la redistribution donc des richesses des pays. Alors, pour vous, c'est important de mettre en avant généralement la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie des populations?
Oui, je pense que c'est l'une des priorités les plus importantes en matière de gestion de la politique nationale. Vous savez qu'au lendemain de notre crise sociopolitique qui a duré jusqu'en 2010, et un peu même en 2011, il y a eu un nouveau pouvoir. Et ce pouvoir ne pouvait s'exécuter véritablement compte tenu de ce qui s'est passé d'abord et compte tenu de ses objectifs, ne pouvait que s'exécuter en mettant sur pied un plan. Le PND n'est rien d'autre qu'une forme de planification du développement. Et donc, en 2012-2015, ça a été le premier plan national de développement. Et l'objectif, je crois qu'en 2011, on avait eu un taux de croissance négatif. Donc l'objectif, c'était d'entrer dans le développement, de permettre à notre pays d'atteindre ses objectifs macroéconomiques. Et on a donc repositionné la Côte d'Ivoire durant ces 5 ans avec un taux de croissance important qui a atteint en moyenne un peu plus de 9% chaque année.
À votre avis, est-ce que la question sociale, qui est l'une des priorités des différents gouvernements qui se sont succédés, a permis aujourd'hui à l'Ivoirien ou à tous ceux qui habitent à ce territoire de ressentir donc l'amélioration des conditions de vie?
Oui, en fait, la question sociale, ces derniers temps, a été un iceberg. C'est un peu comme si c'était sorti de l'eau. Et qui parle de question sociale parle d'IDH, d'indice de développement humain. On va certainement développer le PND 2026-2030, mais je crois que le PND 2026-2030 a pour objectif d'aboutir à une répartition équitable des richesses. C'est vrai qu'on a atteint les objectifs escomptés, mais il y a certains qui ont été oubliés sur le plan social. Et donc, si en 2026-2030, on met l'accent sur une répartition équitable des richesses, c'est qu'on veut certainement corriger certains aspects de cette politique économique et financière.
En tout cas, la question de la lutte contre la pauvreté, hein, les gouvernants avancent qu'il y a eu beaucoup d'efforts à ce niveau, ce qui a fait que le taux de pauvreté a reculé. Est-ce que l'économiste que vous êtes, vous le sentez quand même qu'il y a eu des efforts à ce niveau?
Aussi, le plan macroéconomique, il y a eu des efforts. Mais individuellement, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.
Ce n'est
pas lancer une insulte à quelqu'un. Mm-hmm. Je crois qu'il faut être cohérent, il faut être réaliste. Et souvenez-vous, en 2011, on était à un taux de croissance de près de moins 4%.
Il était négatif.
Voilà,
hein.
Négatif.
Donc, c'était après une guerre que le pays a connu.
Tout à fait. Alors là, depuis 2012 jusqu'à maintenant, on a eu en moyenne un taux de croissance de 7%, en dehors de l'année de la pandémie où on avait atteint 2% malheureusement. Mais cela n'a pas terni l'image de marque de notre pays. Et à l'analyse, il y a beaucoup d'aspects qui sont positifs. Mais on a estimé quand même qu'il fallait revoir le volet social, la politique. pauvreté sociale, le taux de pauvreté surtout.
En tout cas, on en parlera dans notre prochaine édition. On s'intéresse au PND, c'est important. En tout cas, merci à vous pour cet éclairage dans le cadre d'économie de ce jour. Merci à vous, Monsieur Fassé Ndouzon.
Merci, Monsieur Koumi.
À mes auditeurs, rendez-vous est pris la semaine prochaine. D'ici là, prochaine rubrique.
Itinéraire, le parcours de vie de notre invité.
Dans le cadre de la rubrique itinéraire, nous nous rendons dans la sous-préfecture de Sérillo pour faire la connaissance, grâce à Belcésar Cassin, notre correspondant dans le Loguibois, de Kore Maï. Il est entrepreneur agricole. Découvrons-le dans cet entretien.
Kore Maï, vous êtes en train d'initier un programme en faveur des jeunes pour planter le palmier à huile. D'abord, qui êtes-vous?
Bien, merci. Comme on l'a dit, je suis Kore Maï. Je suis juriste de formation, juriste d'affaires. Aujourd'hui, je suis entrepreneur agricole. Au-delà des activités de production, je suis président de coopérative aujourd'hui, aussi président d'une ONG pour aider la communauté.
Comment avez-vous commencé?
Ok, en fait, l'agriculture pour nous, c'est une passion. Mais au départ, on avait pour objectif créer nous-mêmes notre propre entreprise. Et en Côte d'Ivoire, on sait que le financement des jeunes qui veulent prendre des initiatives, les financements sont rares. Et donc, il fallait venir dans un domaine où on peut se préfinancer. L'agriculture qui n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour l'investissement. Donc, nous avons commencé par l'agriculture, par la production. Et pour se donner plus de moyens, il fallait diversifier.
La production de quoi?
On a commencé d'abord par le riz, par les vivriers, pour avoir les moyens pour investir dans les cultures pérennes. Donc, avec ce que nous avons gagné dans le vivrier, notamment le riz et le maïs, nous avons investi dans l'EVA, dans le cacao, dans le café, le palmier à huile et la cola. C'est-à-dire que toutes les cultures qui poussent dans notre zone.
Vous dites que vous êtes investi d'abord dans la culture du riz. C'était combien d'hectares de riz?
Bon, depuis quand nous sommes venus, on ne maîtrisait pas un peu trop le domaine. Donc, nous avons commencé avec des petites parcelles, des demi-hectares, et puis après, avec l'expérience, sont montés à 1 hectare, 2 hectares.
Et combien avez-vous obtenu?
Bon, on a commencé doucement avec un demi-hectare. Avant, les terres étaient un peu fertiles, donc on pouvait aller jusqu'à 2 à 3 tonnes. Et après, quand nous sommes allés jusqu'à 1 hectare, 2 hectares, on pouvait monter entre 5 et 10 tonnes pratiquement.
Alors, les auditeurs qui nous écoutent en ce moment seraient curieux de savoir ce que vous faisiez au port.
Bien, comme je dis, je suis juriste de formation, je suis juriste d'affaires. Au port autonome d'Abidjan, je m'occupais de la régulation au niveau du port, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui demandaient des agréments pour exercer au niveau du port, il y avait un contrat qui liait ces entreprises-là au port autonome d'Abidjan. Et nous, notre rôle, c'était de vérifier si ces contrats-là étaient appliqués au compte du port autonome d'Abidjan.
Ça vous rapportait de l'argent? Pourquoi vous êtes parti de là?
Oui, ça nous rapportait de l'argent, mais vous savez, chacun a son tempérament. Nous, on est des personnes qui prenons nos initiatives. Au port autonome d'Abidjan, c'est vrai qu'en tant que cadre juriste, on gagnait notre vie, mais ça ne nous donnait pas la liberté de prendre des initiatives. Et quand c'est comme ça, ça limite un peu notre connaissance, ça limite aussi notre envie d'apporter quelque chose. Donc, nous avons décidé d'aller créer nous-mêmes notre propre entreprise. Là, on aura plus de champs d'ouverture pour prendre des initiatives, pour créer et bien entendu, trouver des emplois aussi à d'autres personnes.
Est-ce que vous étiez préparé à cela?
Non, pas du tout. On n'était pas préparé à cela parce qu'au départ, on n'est pas rentré à l'agriculture par ambition. On est rentré dans l'agriculture par passion d'abord. Et comme je l'ai dit, on est rentré dans l'agriculture pour avoir un peu de moyens et puis créer maintenant une entreprise. Parce que nous sommes juristes de formation, c'était pour créer un cabinet d'affaires. Ça, c'était d'abord l'objectif. Et après, petit à petit, l'appétit vient en mangeant. On a vu que dans l'agriculture, on pouvait aussi faire des affaires dans l'agriculture. Donc, au-delà des cultures pérennes, au-delà des vivriers qu'on mettait en place, on est passé à une autre étape, c'est-à-dire créer une entreprise agricole. D'où aujourd'hui, nous sommes à la tête d'une coopérative régionale, une coopérative des planteurs d'EVA des palmiers de la région du Gorge, qui est une entreprise. Et donc, depuis 2 ans, nous sommes à la tête de cette coopérative dans laquelle nous essayons de fructifier nos affaires.
Vous avez parlé tout à l'heure de culture pérenne. Vous êtes planteur de caféiers, vous êtes planteur de cacaoyers et de colatiers. C'est une autre expérience, ça?
Oui, on connaissait dans nos zones le cacao. Et nous avons pensé autrement parce qu'aujourd'hui, sous nos tropiques, les producteurs ne décident pas des prix de leurs produits. Donc aujourd'hui, la même manière de se faire un peu d'argent, c'est de diversifier. Et donc, nous avons mis en place le café, le cacao, l'EVA, le palmier à huile, la cola. C'est-à-dire que chaque période de l'année, il y a une culture qui est en production. Et donc, ça permet de ne pas manquer d'argent toute la période de l'année. Je donne un exemple. Actuellement, nous sommes à la pause au niveau de l'EVA et du cacao, mais nous sommes en pleine campagne des palmiers. Et donc, d'ici la fin de ce mois, nous rentrons dans la campagne de l'EVA. Et donc, le palmier aussi diminue. Et dans 2 mois, pratiquement, nous recommençons annonçons la campagne du cacao. Donc, c'est-à-dire que toute l'année, il y a une culture qui est en vogue et ça vous permet d'avoir des moyens. Donc, voilà un peu ce pourquoi nous avons participé à la diversification. Le colatier, c'est la même chose. Nous avons pensé que la cola, tout ce qui est rare, devient un bien économique. Et donc, nous sommes rentrés dans la culture de la cola pour simplement essayer d'apporter une solution à ceux qui aiment bien cette production.
Et justement, on va prendre la culture du colatier. Aujourd'hui, cette culture tend à disparaître. Comment vous en sortez?
Aujourd'hui, comme je dis, la culture de la cola est un peu méconnue, mais avec notre expérience que nous apportons, l'information que nous donnons aux jeunes, beaucoup de personnes s'y intéressent aujourd'hui. Le CNRA même est venu ici, ils sont passés pratiquement 2 ans avec nous ici pour divulguer la culture de la cola.
Quelle variété de colatier?
Il y a toutes sortes de variétés. Hein. Il y a les clones, c'est des variétés, mais c'est des clones. C'est-à-dire que nous avons sélectionné assez de clones parce que chaque clone a sa spécificité. Il y a des clones qui sont des hauts producteurs, il y a des clones aussi qui produisent toute l'année, il y a des clones aussi dont les carbones sont grosses, mais dans tous les cas, pour ne pas manquer de cola, nous avons essayé de prendre toutes les variétés. Il y a des variétés CNRA et il y a des variétés aussi hybrides que nous rencontrons chez nous ici. Nous avons fait un clonage pour pouvoir faire sortir des variétés qui puissent nous permettre de faire une grosse production. Aujourd'hui, la rareté de la cola fait que le prix de la cola commence à monter et la cola aussi, c'est un produit qui est assez lourd à l'apaiser. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup d'hectares pour pouvoir se faire un peu.
Le kilogramme, c'est combien?
Le kilogramme varie d'une zone à une autre. Dans notre zone, le kilogramme en moyenne à 500 francs. Mais quand on remonte un peu vers le nord, à partir de Boaké, nous sommes à 700, 800. Et à Abidjan, qui est une grosse zone, nous sommes à 1200 francs le kilogramme de la cola. Je rappelle que c'est Aniama qui est le bastion de la cola, mais avec le temps, avec l'urbanisation, les plantations vieillissent et puis la base même de la cola commence à venir vers nous ici dans le Lot d'Ibois, dans la région de Gagnoua aussi. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire la divulgation, l'implantation de la cola ici. Nous sommes en passe de devenir la nouvelle boucle de la cola dans la Côte d'Ivoire.
Ici, il y a combien de planteurs de colatiers?
Bon, je veux dire que dans la région, c'est une centaine de planteurs. Mais
c'est vous qui êtes le pionnier?
Bon, nous sommes les précurseurs. Nous sommes les précurseurs, mais comme vous savez, nous sommes spécialisés dans les vieilles, le palmier. Nous avons laissé la place à d'autres personnes qui, eux, ils ont mis en place une coopérative parce qu'on ne peut pas tout embrasser en même temps. Mais nous sommes les pionniers. C'est nous qui avons commencé la culture. Ça fait pratiquement un peu plus de 10 ans que nous sommes dans la culture. Et donc, au moment où nous commencions, la culture était vraiment méconnue. Les gens même se moquaient un peu de nous. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est une fierté. Tout le monde prête attention. Donc, nous pensons que nous avons eu le nœud creux de pouvoir entamer cette culture.
Vous avez parlé abondamment d'entreprises agricoles. Combien de personnes employez-vous aujourd'hui?
Ok, au niveau de mon entreprise agricole, nous sommes autour de 12 personnes que nous embauchons directement. Des personnes qui, aujourd'hui, sont devenues des chefs de famille avec tout ce que nous faisons. Ça, c'est des emplois directs. Il y a des emplois indirect, c'est-à-dire que saisonnier, quand il y a un surcroît de travail, il y a des personnes que nous recrutons. Là, ça dépend pour la culture du café. Il y a des personnes qu'on embauche, il y a des saisonniers, il y a des ouvriers temporaires qu'on embauche. Aussi, il y a des jeunes qui ont des tricycles, les motos à 3 roues, qui eux aussi, quand c'est la fin du mois, on leur permet de gagner de l'argent, on a besoin du matériel roulant. Puis donc, c'est une chaîne de valeur dont tout le monde profite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui reviennent au village, qui reviennent dans nos sous-préfectures parce que bon, c'est pratiquement le même gain en ville comme ici. Voilà.
Donc, vous quittez le port, vous venez vous installer et vous devenez entrepreneur agricole. Ça vous rapporte beaucoup d'argent?
Bon, déjà la satisfaction, c'est une satisfaction morale déjà d'avoir changé les paradigmes. Parce que avant, on faisait la promotion du fonctionnariat, on faisait la promotion du salarié. Aujourd'hui, notre venue en milieu rural, on a brisé les lignes. C'est une satisfaction, ça a permis aujourd'hui à beaucoup de jeunes de se sédentariser et l'exode rural a diminué. Maintenant, après, oui, parce que le temps, c'est de l'argent. Mais en étant exploitant agricole, en étant chef d'entreprise, l'agriculture nous permet d'avoir le temps. Nous-mêmes, nous gérons notre temps. Alors, comme on le dit, le temps, c'est de l'argent. Donc, forcément, on a de l'argent. Maintenant, de l'autre côté, bon, on ne dira pas les chiffres, mais ça va.
La dernière question que nous allons vous poser, M. Koremaï, quel conseil donnez-vous aux jeunes?
Ce que nous devons dire, que vous soyez diplômé ou pas, aujourd'hui, les rémunérations ne sont plus à la hauteur de la vie dans nos contrées parce que la vie est chère aujourd'hui. La seule solution qui nous reste, c'est de créer nous-mêmes nos propres entreprises. Créer une entreprise, c'est pas créer une entreprise à une taille exorbitante, non. Il y a des petites entreprises. Aujourd'hui, au niveau de l'ONG SOS Jeunesse que nous dirigeons, nous disons qu'il y a des entreprises qu'on peut créer à 5 000, à 10 000, à 20 000. Ce n'est pas l'investissement colossal qui fait qu'il y a un retour sur investissement, non. Mais nous pensons que dans tous les investissements, dans toutes les entreprises qu'on peut mettre en place, l'agriculture est une entreprise de façon pérenne qui peut vous donner des revenus sur un long moment.
Coré Maï, merci.
Merci bien.
Cet entretien a été réalisé et présenté par Abel César Cassin depuis Sério dans la région du Gord.
Merci à vous, Abel César Cassin, pour cette première partie des échanges que vous avez eus avec Coré Maï, entrepreneur agricole qui a abandonné son métier de juriste d'affaires pour se consacrer à l'agriculture. Et c'est la fin de ce numéro d'Economia. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.